Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Sébastien Krebs et vous êtes entouré des grandes voix pour décortiquer toute l'actualité de ce mercredi. Autour de vous ce soir, Eve Roger, chef du service société d'Europe 1, Jean-Rémy Baudeau du service politique et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Tous bien là mais à un mètre de distance. Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous.
Demain on connaîtra les détails de la deuxième phase du déconfinement qui va commencer le 2 juin mardi prochain. Édouard Philippe va faire les annonces demain après-midi après un conseil de défense à l'Élysée avec encore beaucoup de questions en suspens. On parlait tout à l'heure des restaurants, il y a aussi les lycées, les salles de spectacle, les déplacements. Eve Roger, on entend beaucoup d'optimisme ces derniers jours, les indicateurs sont plutôt au vert. Est-ce qu'on peut espérer que les taux se desserrent de façon conséquente ?
Ça, c'est sûr que les indicateurs sont à peu près tous au vert, hein, parce que vous les connaissez, la situation en réanimation, il y a moins de pression, les passages aux urgences pour suspicion de Covid, les hospitalisations, c'est vrai que tout est au vert, les tests positifs, il y en a peu. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce qu'en réalité, si on faisait une vraie carte avec tous ces indicateurs-là, en gros toute la carte de France serait verte. Et donc, c'est pas du tout ça que la réalité, c'est que le virus circule encore et il faut pas se relâcher. Donc,
ça veut dire que les indicateurs qui étaient valables il y a 3 semaines sont plus valables aujourd'hui?
Non, alors ils le sont plus, ça c'est sûr. Demain, il va y en avoir de nouveaux. Et les nouveaux vont tourner autour des tests positifs. C'est-à-dire le nombre de tests faits par département et les tests positifs. Donc, le paradoxe, c'est que, effectivement, la situation s'améliore vraiment de façon significative. C'est le mot de la semaine. Et en même temps, il faut pas que la tension, la vigilance relâche parce que le virus circule encore. On l'a vu dans les clusters, il y en a une cinquantaine en France, que ce soit en zone rouge ou en zone verte.
Mais même ça, j'ai quand même malgré tout l'impression qu'on entend moins le développement de nouveaux clusters. En tout cas, dans nos cercles familiaux ou amicaux, au début de la crise, moi j'avais l'impression d'entendre tous les jours quelqu'un qui l'avait, qui avait une suspicion, ou même dans ma simple famille, d'avoir malheureusement des morts dus à cela. On n'en entend plus jamais parler.
Alors, on entend parler beaucoup des clusters. Là, il y en a une cinquantaine qui ont été dénombrés, les abattoirs, dans les hôpitaux, dans les foyers de jeunes migrants, dans les foyers de jeunes travailleurs, dans les écoles. Il y a quand même encore des cas. Donc, ça veut dire que le virus circule encore, mais qu'il circule beaucoup moins qu'au mois de février. Et donc, c'est ce qui explique que, à la fois, c'est beaucoup mieux et on peut être optimiste. Et puis, à la fois, si on relâche la pression, on ne sait pas dans quelle mesure ça pourrait reprendre.
Mais là, Jean-Rémy Baudeau, pardon, c'est ce qu'on va entendre probablement dans le discours du Premier ministre demain, une espèce d'entre-deux, de tout va mieux, mais attention, ne tombons pas dans le relâchement total.
Alors ça, c'est certain qu'il ne sera pas du tout dans le relâchement. Je ne sais pas si vous connaissez Édouard Philippe, il y a peu de chances qu'il soit dans le relâchement. Plus sérieusement, il va devoir montrer que son déconfinement, il est réussi, que c'est une réussite, que le pari du 11 mai qui était décrié par une partie de la communauté scientifique, par une partie de l'opposition, que c'était un pari qui est réussi. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on risque de découvrir peut-être de nouveaux indicateurs. Tout à l'heure, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de la Santé, Olivier Véran, répond à une question sur la question des cartes, sur la question de ces fameux indicateurs qui sont plutôt bons. Et là, il se lance dans une espèce d'explication où il explique qu'il y aura beaucoup de cartes, beaucoup d'indicateurs. Enfin, je vous la fais courte, mais on sent qu'il y a quand même... On risque de découvrir de nouveaux éléments. Et ce qui est certain, et ça, on le certifie à Matignon, c'est qu'il va falloir rentrer dans le détail. On sera peut-être plus sur des versions par département. Il va peut-être y avoir des zones beaucoup plus précises. Et ça va être compliqué aussi à mettre en lumière.
Ça veut dire que certaines villes, par exemple, peuvent se retrouver rouges, si on prend le code couleur précédent, et alors que les environs peuvent rester verts.
C'est ce qui est arrivé au stade 2 de l'épidémie. Vous savez, Crépy-en-Valois, à ce moment, les écoles ont fermé à Crépy-en-Valois. À Mulhouse,
vous n'allez pas ouvrir un restaurant dans une ville A et fermer dans une ville B qui serait juste à côté, quand même.
Non, mais je pense que l'idée, c'est de rentrer dans le détail et d'avoir des cartes qui sont très affinées.
Typiquement, sur la question des parcs. La question des parcs à Paris est une vraie question qui est soulevée par beaucoup de gens, notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et pour l'instant, le gouvernement, l'exécutif au sens large, est extrêmement précis, extrêmement, en réalité, prudent sur la question des parcs, parce qu'ils savent bien que dès qu'on va rouvrir le parc, combien même on dit il faut rester en mouvement. Je vais vous donner un exemple juste tout à l'heure. En venant ici à vélo, j'ai croisé le cortège du Premier ministre qui passait sur les Invalides, sur le pont Alexandre III. Le Premier ministre, il voit ça tous les jours. Je pense qu'il allait à l'Élysée. Il voit l'esplanade des Invalides avec plein de jeunes, plein de Français qui sont là à se retrouver en petits groupes. Alors certes, il y a de la distance, mais honnêtement, il voit bien que ce déconfinement, il a déjà largement commencé et c'est l'équilibre très délicat.
Et qu'il n'a pas relancé l'épidémie, ce qui est à ce stade.
C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on risque vraiment à rouvrir les parcs à Paris? Enfin bon, moi je prends aussi le vélo tous les jours en ce moment.
Tu ne croises pas le Premier ministre?
Non, je ne croise pas le Premier ministre, mais je passe chaque matin et chaque midi, chaque soir devant le bois de Boulogne. Je l'ai encore fait ce matin à vélo. Il y a un monde fou, effectivement, mais j'ai l'impression quand même que les distances sont plus ou moins respectées. Alors, on avait déjà eu l'énervement avec Evron la semaine dernière.
Et ça provoque des affrontements ailleurs, y compris sur des ronds-points beaucoup plus exigus que les parcs, finalement.
Un bois de Boulogne ouvert, dans lequel ça montre que ça fonctionne, qu'il n'y a, semble-t-il, pas de cluster, comme dirait, autour du bois de Boulogne.
C'est trop tôt pour tout libérer. Ça veut dire que si on lâche la bride, on ne sait pas, et n'importe quel épidémiologiste sérieux dira « je ne suis pas devin,
on ne sait pas ». Mais là, à partir du moment où tout le monde a déjà fait une soirée, un dîner, à rencontrer des gens, on n'a pas de deuxième vague pour le moment. Alors je suis désolé, je fais mon français moyen, mais...
Pour l'instant, non, mais rien ne dit qu'elle ne va pas arriver.
Les lycées, les restos, les distances, les 100 km, qu'en est-il? On voit ça dans un instant.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Avec Ève Roger, Jean-Rémy Baudot et Emmanuel Dutheil, on parle du déconfinement et des annonces attendues demain par Édouard Philippe. Que va-t-il se passer à partir du 2 juin? Quelles sont finalement les questions qu'il va falloir lever et qu'on se pose ce soir, Ève Roger? Notamment, il y a la question des lycées qui va être tranchée.
C'est vrai, mais j'allais vous parler d'abord des collèges, parce que c'est vrai.
La troisième.
Parce que j'ai l'impression, j'avais le sentiment que le collège... Les enfants sont plus jeunes et que la déscolarisation, si on peut dire, est plus grave encore quand on est plus jeune. Et c'est vrai qu'il faut savoir que 90% des collèges dans les zones rouges sont prêts à rouvrir. Ils ont tous leur dispositif, leur protocole sanitaire qui est prêt. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en 6e, 5e, tous les enfants de France en 6e et 5e puissent retourner dans les collèges. Parce que pour l'instant, je vous le rappelle, c'est les 6e, 5e dans les zones vertes. Ça fait à peu près 28% des 6e et des 5e. Donc il y a déjà les collèges et visiblement... Comme ils sont prêts, ça veut dire que quelqu'un un jour leur a dit « préparez-vous hein. ». Donc ça se dessine. En revanche, effectivement, pour les lycées, ça paraît beaucoup plus compliqué. Parce que c'est Virginie Salmen, dans notre service journaliste éducation, qui a fait un peu le tour des popotes. Et là, les lycées ne sont pas du tout prêts. Et ils se demandent si les lycées ouvrent, si c'est pour préparer l'oral de français, puisque vous savez, il y a encore cette question-là en suspens, ou si c'est pour donner des cours à des secondes, premières, terminales, qui sont complètement démobilisées. Donc il y a cette question à laquelle il va falloir répondre demain, et c'est vrai que pour l'oral de français, on a l'impression qu'il y a Jean-Michel Blanquer qui est pour le maintien de l'oral de français, et puis qu'il est un peu seul à le vouloir, parce que les profs disent les enfants, ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas fait d'oraux blancs de bac de français, et puis ça fait 3 mois qu'ils sont plus en cours.
Ça va être compliqué à organiser. Voilà. Jean-Rémy Baudot, sur les déplacements, la limite des 100 km, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'elle va être assouplie, levée complètement? Qu'est-ce qui se dessine?
Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour vous répondre. En réalité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être tranché demain matin, définitivement, lors du Conseil de défense à l'Élysée. Oui, on sent que ça bouge. On sent notamment que, de la même manière, les politiques voient bien que beaucoup de Français sont déjà passés au-delà des 100 km sans problème. J'ai un proche du Premier ministre qui me disait tout à l'heure, j'étais à Saint-Arnoult dimanche soir, c'était surtout 100 km de bouchons.
C'est pas vrai, raconte n'importe quoi. J'ai passé Saint-Arnoult dimanche soir à 17h et des bananes, je peux vous dire qu'il y avait personne
en
à Saint-Arnoult.
Il y a les fameux 100 km, la question des rassemblements, la question de la culture, la question des transports. En fait, le nombre de dossiers là actuellement sur la table de l'exécutif, du Premier ministre, du Président de la République, ces dossiers, ils sont extrêmement important parce qu'ils mettent en musique aussi la suite du redémarrage économique. Parce que le sanitaire, manifestement, ça a l'air d'aller plutôt bien, mais l'économique, Emmanuel pourra nous en parler.
Et on entendait Philippe Etchebest qui parlait des restaurateurs, mais c'est aussi tout le secteur du tourisme qui attend, et qui attend des confirmations aussi pour l'été, parce qu'on devrait en savoir un peu plus sur l'été. Édouard Philippe avait dit vous pourrez voyager, mais
oui, effectivement, il y a un point extrêmement important, et c'est ça qui va sûrement quand même forcer à déconfiner un peu plus, c'est qu'il voit bien qu'il y a une nette reprise aujourd'hui de l'économie, et que ça commence à poser problème, puisque dans beaucoup de secteurs, ceux qui sont encore interdits, il commence à y avoir un vrai sentiment de dire mais pourquoi eux ont le droit de faire ça et pourquoi nous aujourd'hui on peut pas ouvrir. Donc effectivement, du côté des restaurants dans les zones vertes, il va y avoir une ouverture assez progressive. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place le protocole sanitaire dans les restaurants. C'est Carole Ferry du service économie d'Europe 1 qui vous le révélait ce matin sur Europe, avec un exemple que je trouve pas mal. Par exemple, sur les menus, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé jusque-là, mais il n'y a pas plus vecteur de contagion que ces éventuels menus. Bon, bah là, il faudra que tout le monde s'organise, plutôt mettre une ardoise un peu au bout de la pièce, ou avoir des solutions qui font qu'on n'est pas obligé de se passer le menu les uns et les autres. Les 4 mètres carrés sont abandonnés, donc il va falloir trouver une solution qui permette quand même une distanciation, mais sans arriver jusque-là, parce qu'effectivement, il faut faire repartir l'économie. Quand vous voyez les chiffres aujourd'hui qui ont été publiés par l'INSEE, le PIB français, c'est-à-dire toute la richesse que l'on crée en France sur un temps donné, pourrait baisser de 20% sur le trimestre qui vient de s'écouler. Donc c'est dramatique, c'est cataclysmique, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de 8% de baisse de la croissance cette année.
Ça veut dire que ça va être pire que ce qui,
ce qui avait été prévu. En fonction des chiffres là, qu'on commence à avoir, c'est pire que ce qui avait été annoncé. Donc effectivement, il faut repartir. Vous avez aussi vu les chiffres de l'Organisation internationale du travail hein, qui dit que déjà aujourd'hui, un jeune sur six, quand on dit un jeune, c'est au sens de l'OIT, c'est moins de 29 ans, un jeune sur six a déjà perdu son job. Donc c'est impressionnant aujourd'hui les difficultés et de la façon il va falloir relancer cette machine économique.
Et vous allez voir que politiquement ça va être extrêmement compliqué aussi parce que d'ailleurs si ça se passe bien d'un point de vue sanitaire, il y en a qui vont commencer à dire que tout ça, ça a été un peu too much quoi, qu'on est allé un peu trop loin et que donc le gouvernement est responsable de la situation économique. Je vous annonce déjà des débats compliqués, des débats politiques assez compliqués.
Ouais, c'est une petite musique qui commence à monter. Il y a un débat qui est en cours en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est le Covid, le Stop Covid, l'application mobile qui est lancée par le gouvernement. Le débat est encore en cours, on en parle dans quelques secondes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Les députés et les sénateurs se penchent ce soir sur l'application Stop Covid qui a été mise en place par le gouvernement pour être installée sur notre smartphone et pour nous indiquer lorsqu'on a croisé quelqu'un qui s'avère être malade. Emmanuel Dutheil, le service économie ce matin nous révélait qu'il avait pu tester cette application en avant-première. Ça ressemble à quoi en deux mots? On l'installe sur notre téléphone.
Exactement, on a pu la tester avec Clément Le Saff du service économique. Alors c'est encore ce qu'on appelle la version bêta, puisque vu que le vote n'est pas encore passé, ce n'est peut-être... Mais bon, c'est quasiment celle qui sera présentée une fois que ça sortira. Donc comment ça se passe? Vous allumez votre téléphone, vous mettez cette application Stop Covid, c'est très simple. Vous arrivez d'abord sur une première page qui vous explique... où vont aller vos données, comment elles sont sécurisées, qui peut avoir accès. Donc c'est vraiment une grosse opération de transparence au début. Vous passez cette première page et là, vous pouvez après indiquer si vous êtes ou si vous avez été malade, parce que c'est quand même ça le but de cette application. Ah, il faut juste... Oui, alors je vais vous dire ça. Si vous êtes malade, machin, c'est là où vous indiquez cela. Il faut quand même que vous ayez activé, je ne sais pas si vous le savez tous sur vos portables, mais ce qu'on appelle le Bluetooth, puisque c'est ça qui permet à cette technologie qui permet à nos téléphones de se parler. Donc une fois que vous avez activé tout ça, et vous n'avez que ça à faire. Hein. Et après, alors là, quand on la teste, le problème, c'est que pour le moment, personne ne s'est en déclaré. On ne voit personne autour. Mais le but après, c'est de voir si effectivement, des gens qui sciemment ont déclaré qu'ils étaient malades ou qu'ils étaient en ce moment malades, de savoir s'il y a des gens aux alentours. Après, pour le moment, elle fonctionne. Les hackers, c'est ceux qui essayent d'aller casser ce genre d'application, qu'ils l'ont fait là au service de l'État pour voir si elle tenait, disent qu'elle tient avec une toute petite nuance qui disent que pour le moment elle n'a rien dedans, donc il va falloir qu'on voit si elle tient la charge et il va falloir qu'on voit une fois qu'il y aura des données médicales s'il n'y a pas quand même quelques failles techniques.
Ça fait quand même des doutes et écoutez ce que disait Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, il était ce matin l'invité de la matinale d'Europe 1.
Je ne peux pas dire que le système est infaillible. Aucun système technologique, même les systèmes des plus grands États, n'est infaillible. Ce que je sais, ce que nous avons fait, c'est que l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes Informatiques, l'ANSSI, ont été impliqués, on a pris toutes les garanties possibles. On a lancé ce qu'on appelle un bug bounty ces derniers jours, c'est-à-dire des hackers sont payés pour venir attaquer l'application, nous révéler si jamais il y avait des failles.
Voilà, des hackers sont payés pour aller chercher, pour aller chercher la petite bête, quoi.
Oui, là, ils le font en ce moment. Ça a commencé hier en fin d'après-midi. Et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de regarder si effectivement l'application tient. C'est capital, hein, parce que c'est quand même des données personnelles extrêmement importantes qui se doivent d'être extrêmement sécurisées. Puis cette application est quand même tellement, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir qu'on en parlait ici même, tellement mal née. Parce que Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique, s'est battu un peu tout seul, même à un moment.
Là, ils ont du mal à convaincre quand même. On a l'impression que ça arrive.
Je regardais
très tard.
Là, les débats à l'Assemblée en ce moment avant de venir. Alors déjà, c'est un peu long, donc il faut vraiment être très intéressé pour ceux qui ont envie de suivre ça. Et effectivement, on sent que du côté de l'opposition, c'est sûrement de la politique, hein, mais il y a une vraie peur sur cette idée de traçage, sur cette idée qu'on puisse savoir. Alors c'est anonymisé, hein, c'est bien évidemment si vous êtes dans la rue, vous Sébastien avec votre téléphone, que vous voyez qu'il y a quelqu'un à côté, on ne va pas vous dire attention, c'est le garçon aux cheveux blonds là-bas qui est concerné.
Oui, il y a eu un discours très rassurant sur ces données anonymisées, et pour autant, il y a eu un débat jusque dans la majorité. Jean-Rémy Baudeau, il y a un risque que ce soir, députés ou sénateurs rejettent cette application?
Normalement, pas de risque. Il est même visible que les sénateurs sont un peu moins virulents sur ce projet qu'une partie de l'opposition. Moi aussi, comme Emmanuel, tout à l'heure, j'ai passé une partie de mon après-midi à suivre l'Assemblée nationale. Ma vie est fort passionnante, mais c'était intéressant. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise s'est retrouvé sur les mêmes thèmes que certains anciens macronistes, sur cette fameuse phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disant qu'en fait, c'est pas parce que la technologie le permet qu'il faut absolument utiliser ce type de méthode. La droite dit soit votre application est volontaire et donc inefficace, soit elle est obligatoire et donc liberticide. Donc l'opposition est vraiment farouchement contre ce process, alors même que d'un pur point de vue technique, certains poussent même à ce que ça aille beaucoup plus loin, que la géolocalisation soit utilisée. Certains donnent en exemple, par exemple, la Corée du Sud. Mais enfin, il faut quand même savoir ce qui se passe en Corée du Sud à ce niveau-là. On ne vous demande pas votre avis. On vous envoie des textos disant vous restez
rentrez chez vous,
etc. Ou vous êtes rentré sur le territoire, restez en quarantaine chez vous. Enfin, là, pour le coup, c'est extrêmement intrusif. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile pour le gouvernement de dire c'est sur la base du volontariat, c'est libre, alors qu'il y a quand même un petit fond de chantage sur le côté. Si vous voulez que l'épidémie ne reparte pas, il faut qu'on utilise ce truc-là. Et puis, d'une autre manière, c'est que on disait tout à l'heure que les chiffres sont plutôt encourageants. Et donc, cette appli, elle semble arriver un peu tard.
C'est ça,
pour des raisons techniques et politiques, mais elle arrive tard. Et donc,
elle était prévue pour le 11 mai, elle arrive
trois semaines
après.
Les gens ont moins peur. Et donc, c'est dur de leur dire c'est maintenant qu'il faut s'équiper, alors qu'on a surtout l'impression que c'est le moment d'aller prendre l'apéro.
Qu'est-ce qu'ils en disent quand disent les médecins, Yves Roger? On entendait Jimmy Mohamed dans le journal de 18h tout à l'heure, qui était assez. Un outil de plus.
Voilà, alors, les médecins, ils ont plutôt tendance à dire c'est qu'un outil, il faut le juger, il faut le voir comme tel. C'est rien d'autre qu'un outil. Et les brigades sanitaires, qui ne s'appellent plus comme ça, puisque ça fait militaire, mais font le même métier, mais sauf que ça accélère le métier des brigades, qui consiste à appeler en disant est-ce que vous avez rencontré monsieur machin, etc. Donc c'est le même métier, c'est qu'un outil, ils n'en font pas autre chose que ça. Et ça, c'est important. Mais ce qui est important aussi de dire sur cette application, c'est qu'on a longtemps dit que si 60% de la population ne la téléchargeait pas, ça ne servait à rien. Et en fait, Cédric O.
Donc elle sert à rien.
Cédric O, il dit.
Cédric O, il dit 10% ça suffit parce que c'est 10% de ma saine vie. C'est-à-dire que si nous, la radio ici, 10% de nous, ça devrait suffire.
Bon. Alors, ce qui est par ailleurs attention à noter, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent quand même aussi là-dessus. Et tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon en a distillé une. Il laisse entendre que l'application partage les numéros des carnets d'adresses et que donc, même si lui n'a pas accepté, eh bien, il serait possiblement tracé. Ça, c'est absolument faux. Ça a été démontré plusieurs fois. Donc, il faut aussi faire attention à tout ce qui circule autour de ça. C'est Bluetooth, donc c'est une connexion à plus de 15 mètres. En gros, entre 5 et 15 mètres, ça marche plus.
Ce qui pose
plus.
Un énorme problème, parce que par exemple, dans le métro, comment ça va fonctionner? Ce qui est quand même un endroit potentiellement important de contagion, ce genre de choses, où on est en proximité. On n'est pas certain qu'elle fonctionne bien.
L'application elle repère les gens qui sont à un mètre
pendant un quart d'heure.
Voilà,
donc un certain temps. C'est pas juste quelqu'un qu'on croise dans la rue. Merci à tous les trois.
Merci.
Les grandes voix. Ève Roger, chef du service société. Emmanuel Dutheil, chef du service éco. Jean-Rémy Baudot du service politique. Merci à tous les trois. Bonne soirée.